Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point sur l'environnement.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joko Widodo a souligné l'importance de l'innovation dans le domaine social. L'Indonésie estime la BID importante pour aider le financement en Indonésie. Le président indonésien quitte pour Sochi pour assister au sommet ASEAN-Russie. L'Indonésie soulève la question de la réduction de la pauvreté à l'APEC 2016. L'Indonésie obtient l'emprunt de 5 milliards de dollars américains de la BID. Et enfin, l'Arabie Saoudite renforce les relations économiques avec l'Indonésie. Voici le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo, mardi à Séoul, en Corée du Sud, a prononcé un discours lors de la 7e conférence sur le leadership asiatique. Dans son discours, le président Joko Widodo met en évidence l'évolution de l'innovation de technologie de l'information qui a été atteinte par la communauté mondiale actuellement. Selon le président, ce développement doit être équilibré en progressant l'innovation sociale. Il est destiné à combler les disparités sociales qui sont souvent l'élément déclencheur de l'anarchie dans la société.
We have enough innovation in technology and
nous avons assez d'innovation dans la technologie et les affaires, mais nous avons besoin de plus d'innovation dans les pratiques sociales. Nous avons besoin d'innovation dans le paradigme gouvernemental. Nous avons besoin d'innovation afin d'être le gagnant, mais nous sommes également en mesure de maintenir les cartes avec l'innovation. Dans son discours, le président Joko Widodo a également mentionné qu'il avait déjà procédé à l'innovation sociale en effectuant une visite en impromptu. L'effort visait à mener un dialogue et de recevoir des entrées du peuple depuis qu'il a conduit la ville de Solo dans le centre de Java et Jakarta. La 7e conférence sur le leadership asiatique est un forum des hommes d'État, des scientifiques et des hommes d'affaires de fournir des contributions en science et promouvoir la valeur de leadership dans le changement à une meilleure gouvernance en Asie et dans les communautés mondiales. Le ministre indonésien des Finances, Bambang Brojonegoro, lors d'une conférence de presse sur le rapport annuel 2015 dans la 41e séance annuelle de la Banque islamique de développement, BID, lundi dernier à Jakarta, a estimé l'existence stratégique de la BID pour le financement en Indonésie. Selon le ministre, le gouvernement d'Indonésie va immédiatement intensifier la coopération avec la BID. L'accord de la stratégie du partenariat des pays membres a été signé mardi entre le gouvernement d'Indonésie et la BID.
Indonesia memandang IDB itu semakin penting di dalam konteks pembiayaan pembangunan di Indonesia.
L'Indonésie estime l'importance de la BID dans le financement de développement en Indonésie. À présent, l'Indonésie et la BID préparent de signer la stratégie du partenariat des pays membres pour les années 2016-2020. En substance, c'est un accord conjoint entre la BID et le gouvernement d'Indonésie sur les projets et les programmes qui seront supportés par la BID en Indonésie. Pour les années 2016-2020, on va mettre au point aux infrastructures physiques et sociales et ensuite l'industrie de la finance islamique inclusive, le développement du secteur d'affaires et le soutien vis-à-vis l'intégration régionale. De plus, selon le ministre Bambang Brojonegoro, dans cette séance annuelle, il y a un nouveau programme pour intensifier la coopération entre l'Indonésie et la BID, à savoir la structuration des bidonvilles en Indonésie qui coûtera 354 millions de dollars américains, le développement de quatre universités de 76,5 millions de dollars américains et l'expansion du réseau d'électricité à un coût de 330 millions de dollars américains. Le président Joko Widodo quitte pour Sochi en Russie de la Corée du Sud mercredi à environ 7 heures heure locale pour assister au sommet ASEAN-Russie. C'est ce qu'a annoncé la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Séoul mardi. Selon la ministre Retno, une rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine sera menée le 18 mai 2016 à 18 heures heure locale après que le président a atterri à Sochi. Il expliquait qu'il y aurait un certain nombre de programmes discutés par le président Joko Widodo et le président Vladimir Poutine, entre autres, les relations commerciales bilatérales et certains efforts pour surmonter les obstacles commerciaux. Dans le sommet ASEAN-Russie qui se tiendra les 19 et 20 mai 2016, le président Joko Widodo et tous les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN, ainsi que le président russe, mèneront une réunion pour discuter des affaires et des questions de l'architecture de sécurité régionale. La délégation indonésienne va soulever la question du développement rural et la réduction de la pauvreté, ou développement rural et lutte contre la pauvreté, lors de la réunion de la coopération économique Asie-Pacifique, APEC, en 2016. Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères mardi. La coopération entre l'Indonésie et le Pérou, comme l'hôte et le président de l'APEC 2016, pour rédiger un concept lié au document de RDPA, est bien appréciée par tous les membres de l'APEC dans la réunion des hauts fonctionnaires qui a eu lieu du 14 au 15 mai à Arequipa, le Pérou. Le Pérou apprécie grandement la coopération avec l'Indonésie en tant que co-rédacteur dans la rédaction d'un document qui vise à encourager les efforts RDPA dans la région de l'APEC, a déclaré le directeur de la coopération interrégionale de l'Asie-Pacifique et l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, Benjamin Eskarnadi. Selon lui, parmi les membres des pays de l'APEC, l'Indonésie donne une grande attention à faire avancer la question du développement rural et la lutte contre la pauvreté. Cela se reflète dans une variété de programmes de développement rural et les régions éloignées par le gouvernement de l'Indonésie, ainsi que la discussion de cette question lors du forum de l'APEC nommé par l'Indonésie depuis 2013. Le ministre de la Planification du Développement National, en tant que le chef de l'Agence nationale de la Planification du Développement, Sofiane Djalil, a déclaré que l'Indonésie obtient l'emprunt de 5 milliards de dollars américains de la Banque islamique de développement signé mercredi 18 mai. C'est ce qu'a affirmé Sofiane Djalil en mars dans un séminaire à la 41e session annuelle de la Banque islamique de développement, BID, à Jakarta, mardi. Mais le ministre n'a pas expliqué plus détaillé des programmes qui sont inclus dans l'aide de 5 milliards de dollars américains. Selon lui, il n'y a pas d'obstacle lié aux dons de cet emprunt. parce que la BID voit l'Indonésie comme un pays qui peut jouer un rôle plus important dans la BID. Les hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite vont renforcer la coopération économique dans le commerce et le financement charia avec l'Indonésie afin d'intensifier le commerce bilatéral. Le renforcement de l'engagement est facilité par Saudi Export et International Trade Finance Corporation, un organisme autonome dans le groupe de la Banque islamique de développement BID dans un entretien avec la Chambre de commerce et d'industrie Kadin d'Indonésie lundi dernier à Jakarta. Le directeur de International Trade Finance Corporation, Eng Hani Salem Sonbol, a déclaré: la réunion était en mesure de construire une nouvelle entreprise des hommes d'affaires d'Indonésie et d'Arabie Saoudite qui sont en ligne avec la vision de la BID qui veut intégration, la durabilité et l'échange commercial entre les pays membres. Cependant, le directeur général de développement de Saudi Export, Bassam bin Hamed Al-Aoujan, va également se coopérer avec International Trade Finance Corporation et Kadin d'Indonésie en raison que la coopération peut augmenter le financement du commerce charia et encourager l'accès des marchandises en provenance de l'Arabie Saoudite à l'Indonésie. Serge Tor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, auditrices, écoutons le commentaire aujourd'hui. Intitulé « Le maire musulman à Londres ». Le dimanche 15 mai 2016, le spectacle de poney et de cheval de la guerre de cheval au château de Windsor anime le 80e anniversaire de la reine Elisabeth II. En fait, l'anniversaire de la reine était le 21 avril dernier. Un tel événement de la célébration a également été animé par des spectacles de pays amis et aussi l'apparition des célèbres chanteurs. L'Angleterre, en particulier Londres, a salué l'anniversaire de la reine avec joie. En plus de la joie, il y avait une atmosphère similaire le samedi 7 mai 2016 quand un migrant en provenance du Pakistan, un musulman, Sadiq Khan, était élu maire de Londres. La victoire de Sadiq Khan du parti travailliste est assez surprenante, parce qu'elle fait face à un adversaire qui n'est pas n'importe quel homme. Il est Zach Goldsmith, un militant écologiste, représentant le parti conservateur, et il est connu comme le fils du magnat de la finance britannique James Goldsmith. Pendant la campagne, Zach a souvent attaqué Khan avec des accusations de soutenir les extrémistes de l'islam et l'associer avec des liens musulmans qui soutiennent les extrémistes. Malheureusement, la stratégie de Zach n'a pas entièrement pris en charge son propre parti. Sadiq a reçu 53% des voix et Zach recueille 47% des voix. Qui est Sadiq Khan? Sadiq est né à Londres en 1970 d'une famille d'immigrants en provenance du Pakistan en tant que cinquième de 8 enfants. La région qu'il a vécue pendant l'adolescence est une région dense avec les citoyens et la culture multiethnique au sud de la ville de Londres. Khan a étudié le droit et a obtenu son diplôme d'un avocat qui a fait beaucoup de défense des droits de l'homme. En 2008, Sadiq Khan est entré dans le cabinet du Premier ministre Gordon Brown en tant que ministre. Il a été enregistré Premier ministre musulman dans l'histoire du cabinet britannique. L'élection de Sadiq Khan comme maire de Londres a une fois changé la vue du candidat du président américain Donald Trump, qui a prononcé la controverse sur l'islam. Sur certaines occasions, Trump a déclaré de fermer la porte pour les musulmans d'entrer aux États-Unis. Depuis la victoire de Khan, Trump a donné une exception pour ses maires musulmans. Sadiq lui-même ne voulait pas seulement parce qu'il est maire de Londres. il a donné la facilité d'entrer aux États-Unis. Si Trump devient le président américain, par conséquent, il a fait une déclaration qu'il ne ferait que rendre visite avec l'inauguration présidentielle en janvier. Le commentaire de Khan ainsi que le commentaire du premier ministre britannique David Cameron, qui a critiqué le plan de Trump de limiter l'entrée des musulmans, rend Trump en colère. Donald Trump est susceptible de limiter ses relations avec le Royaume-Uni comme un proche allié en Europe. La victoire de Khan quelque temps après une certaine terreur en Europe nous donne une leçon qu'il y a encore de l'espoir pour l'unité. Pas de place pour répandre la peur contre les groupes extrémistes islamiques. La victoire de Khan est devenue un signe de négation qui a eu lieu. L'islamophobie aigre et chronique en Europe. C'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Cinquième antenne, pour la boucle suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons avec la Journée internationale des musées. Le 18 mai 1978, pour la première fois, est célébrée la Journée internationale des musées. La détermination d'aujourd'hui est le contenu des résolutions émises par le Conseil international des musées lors de sa deuxième séance à Moscou le 28 mai 1977. Selon cette résolution, la mise en place de la Journée internationale des musées vise à plus attirer l'attention du public sur l'activité du musée comme un moyen d'échange et d'enrichissement culturel et à renforcer la compréhension et la paix entre les peuples du monde. La transformation est sur l'éruption volcanique dans l'État de Washington le 18 mai 1980. Après plus d'un siècle de repos, le volcan du Mont St. Helens, d'une hauteur de 3000 mètres au nord-est de Portland, aux États-Unis, se réveille. Une explosion d'une puissance égale à 500 fois celle d'Hiroshima a lieu et le mont s'affaisse de 400 000, provoquant une avalanche de débris. Cette éruption provoque 57 morts. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'occupation du bâtiment de DPR-MPR-RI par les étudiants. Dans un état qui est sous contrôle après une situation tendue pendant quelques jours depuis la tournage d'un étudiant de Trisakti et des émeutes en Indonésie, le 18 mai 1998, lundi après-midi, des centaines d'étudiants du Forum Urbain, ensemble avec le Forum communautaire des étudiants de Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ont réussi à entrer au bâtiment de DPR-MPR. Ils ont insisté l'enquête de la fusillade de l'étudiant de Trisakti, le rejet de la nomination à nouveau de Suharto en tant que président, la dissolution de DPR-MPR en 1998, la formation d'un nouveau gouvernement et la reprise économique dès que possible. Serge Tar, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Cinquième antenne, pour la suivante, nous vous présentons maintenant la mise au point sur l'environnement et pour le titre planter les arbres pour réduire la pollution et le réchauffement climatique. La conscience de planter les arbres a connu une croissance partout en Indonésie. De nombreux programmes de diverses régions ont toujours été associés à la plantation d'arbres. Dans la province de Java Central, par exemple, précisément dans la zone du marché intégré au village Kuripan Yusorjo, le district du sud de Pekalongan, on fait ensemble le mouvement de plantation d'arbres. Vendredi dernier, 13 mai, environ 400 arbres ont été plantés ensemble à Nouveau-Marseille. Cette activité est une collaboration entre la municipalité de Pralongan avec le commandement de district militaire de 0710 Pralongan. Des dizaines d'étudiants ont également participé aux activités de plantation d'arbres. Le chef d'état-major du commandement de district militaire 0710 Pekalongan, le major d'infanterie M. Mascour, a déclaré que la plantation d'arbres visait à réduire le réchauffement climatique. Non seulement le réchauffement climatique, la pollution provoque également des préoccupations au sujet de la diminution de la qualité environnementale. Le nombre de la grande industrie qui augmente de plus en plus dans le village Plélen, le district de Greensing, la résidence de Semarang, en province de Java Central, a conduit à une augmentation de la pollution dans la région. La famille des étudiants de Batang à Semarang récemment a essayé de la résoudre en plantant 500 semis d'arbres d'acajou et sengon. Ces semis étaient l'aide du service de la santé de Java Central. Ces arbres ont été plantés au long de la rue qui ne sont pas encore l'arbre, ainsi que distribués aux résidents de 8 hameaux au village Plélen comme un effort pour préserver la terre. Le chef du hameau de Ngrau au village Plélen, Jono, a affirmé que les habitants ont été aidés grâce à la plantation de ces graines parce que plus tard, il permettra de réduire la pollution de l'air et la température aérienne pour éviter la surchauffe. Le mouvement de la plantation d'arbres a également été fait sur le campus. La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, vendredi dernier, a assisté à l'annonce du programme d'un étudiant 5 arbres initié par l'Université de 11 Maret ou UNS à Solo, Centra-Java. Ce programme est appliqué par l'université aux étudiants de l'université de 11 Maret de la classe de 2015 et par la suite. Chaque étudiant est obligé de planter 5 arbres et doit terminer lorsqu'il obtient son diplôme. Les étudiants ne peuvent pas suivre l'obtention du diplôme s'ils ne fournissent pas encore la preuve qu'ils ont planté 5 arbres. La ministre Siti Nurbaya apprécie ce programme et prévoit de l'adopter pour d'autres endroits en Indonésie. Sagittaire, c'était la mise au point sur l'environnement de la voie de l'Indonésie à Jakarta. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité. Le président indonésien Joko Widodo, mardi à Séoul, en Corée du Sud, a prononcé un discours lors de la 7e conférence sur le leadership asiatique. Dans son discours, le président Joko Widodo met en évidence l'évolution de l'innovation de technologie de l'information qui a été atteinte par la communauté mondiale actuellement. Selon le président, ce développement doit être équilibré en progressant l'innovation sociale. Il est destiné à combler les disparités sociales qui sont souvent l'élément déclencheur de l'anarchie dans la société.
We have enough innovation in technology
and nous avons assez d'innovation dans la technologie et les affaires, mais nous avons besoin de plus d'innovation dans les pratiques sociales. Nous avons besoin d'innovation dans le paradigme gouvernemental. Nous avons besoin d'innovation afin d'être le gagnant, mais nous sommes également en mesure de maintenir l'écart avec l'innovation. Dans son discours, le président Joko Widodo a également mentionné qu'il avait déjà procédé à l'innovation sociale en effectuant une visite en impromptu. L'effort visait à mener un dialogue et de recevoir des entrées du peuple depuis qu'il a conduit la ville de Solo dans le centre de Java et Jakarta. La 7e conférence sur le leadership asiatique est un forum des hommes d'État, des scientifiques et des hommes d'affaires de fournir des contributions en science et promouvoir la valeur de leadership dans le changement à une meilleure gouvernance en Asie et dans les communautés mondiales. Le ministre indonésien des Finances, Bambang Brojonegoro, lors d'une conférence de presse sur le rapport annuel 2015 dans la 41e séance annuelle de la Banque islamique de développement, BID, lundi dernier à Jakarta, a estimé l'existence stratégique de la BID pour le financement en Indonésie. Selon le ministre, le gouvernement d'Indonésie va immédiatement intensifier la coopération avec la BID. L'accord de la stratégie du partenariat des pays membres a été signé mardi entre le gouvernement d'Indonésie et la BID.
Indonesia memandang IDB itu semakin penting di dalam konteks pembiayaan pembangunan di Indonesia.
L'Indonésie estime l'importance de la BID dans le financement de développement en Indonésie. À présent, l'Indonésie et la BID préparent de signer la stratégie du partenariat des pays membres pour les années 2016-2020. En substance, c'est un accord conjoint entre la BID et le gouvernement d'Indonésie sur les projets et les programmes qui seront supportés par la BID en Indonésie. Pour les années 2016-2020, on va mettre au point aux infrastructures physiques et sociales et ensuite l'industrie de la finance islamique inclusive, le développement du secteur d'affaires et le soutien vis-à-vis l'intégration régionale. De plus, selon le ministre Bambang Brojonegoro, dans cette séance annuelle, il y a un nouveau programme pour intensifier la coopération entre l'Indonésie et la BID, à savoir la structuration des bidonvilles en Indonésie qui coûtera 354 millions de dollars américains, le développement de 4 universités de 76,5 millions de dollars américains et l'expansion du réseau d'électricité à un coût de 330 millions de dollars américains. Le président Joko Widodo quitte pour Sochi en Russie de la Corée du Sud mercredi à environ 7 heures heure locale pour assister au sommet ASEAN-Russie. C'est ce qu'a annoncé la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à Séoul mardi. Selon la ministre Retno, une rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine sera menée le 18 mai 2016 à 18h heure locale après que le président a atterri à Sochi. Il a expliqué qu'il y aurait un certain nombre de programmes discutés par le président Joko Widodo et le président Vladimir Poutine, entre autres, les relations commerciales bilatérales et certains efforts pour surmonter les obstacles commerciaux. Dans le sommet ASEAN-Russie qui se tiendra les 19 et 20 mai 2016, le président Joko Widodo et tous les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN, ainsi que le président russe, mèneront une réunion pour discuter des affaires et des questions de l'architecture de scrutin régional. La délégation indonésienne va soulever la question du développement rural et la réduction de la pauvreté, ou développement rural et lutte contre la pauvreté, lors de la réunion de la coopération économique Asie-Pacifique, APEC, en 2016. Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères mardi. La coopération entre l'Indonésie et le Pérou, comme l'hôte et le président de l'APEC 2016, pour rédiger un concept lié au document de RDPA, est bien appréciée par tous les membres de l'APEC dans la réunion des hauts fonctionnaires qui a eu lieu du 14 au 15 mai à Arequipa, le Pérou. Le Pérou apprécie grandement la coopération avec l'Indonésie en tant que co-rédacteur dans la rédaction d'un document qui vise à encourager les efforts RDPA dans la région de l'APEC, a déclaré le directeur de la coopération interrégionale de l'Asie-Pacifique et l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, Benjamin Eskarnadi. Selon lui, parmi les membres des pays de l'APEC, l'Indonésie donne une grande attention à faire avancer la question du développement rural et la lutte contre la pauvreté. Cela se reflète dans une variété de programmes de développement rural et les régions éloignées par le gouvernement de l'Indonésie, ainsi que la discussion de cette question lors du forum de l'APEC nommé par l'Indonésie depuis 2013. Le ministre de la Planification du Développement National, en tant que le chef de l'Agence nationale de la Planification du Développement, Sofiane Djalil, a déclaré que l'Indonésie obtient l'emprunt de 5 milliards de dollars américains de la Banque islamique de développement signé mercredi 18 mai. C'est ce qu'a affirmé Sofiane Djalil en marge d'un séminaire à la 41e session annuelle de la Banque islamique de développement, BID, à Jakarta, mardi. Mais le ministre n'a pas expliqué plus détaillé des programmes qui sont inclus dans l'aide de 5 milliards de dollars américains. Selon lui, il n'y a pas d'obstacle lié au don de cet emprunt, parce que la BID voit l'Indonésie comme un pays qui peut jouer un rôle plus important dans la BID. Les hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite vont renforcer la coopération économique dans le commerce et le financement charia avec l'Indonésie afin d'intensifier le commerce bilatéral. Le renforcement de l'engagement est facilité par Saudi Export et International Trade Finance Corporation, un organisme autonome dans le groupe de la Banque islamique de développement, BID, dans un entretien avec la Chambre de commerce et d'industrie, Kadin, d'Indonésie, lundi dernier à Jakarta. Le directeur de International Trade Finance Corporation, Eng Hani Salem Sonbol, a déclaré « La réunion était en mesure de construire une nouvelle entreprise des hommes d'affaires d'Indonésie et d'Arabie Saoudite » qui sont en ligne avec la vision de la BID qui veut intégration, la durabilité et l'essence commerciale entre les pays membres. Cependant, le directeur général de développement de Saudi Export, Bassam bin Hamed Al-Aoujan, va également se coopérer avec International Trade Finance Corporation et Kadin d'Indonésie en raison que la coopération peut augmenter le financement du commerce charia et encourager l'accès des marchandises en provenance de l'Arabie Saoudite à l'Indonésie. Serge Tor, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Nusa Tenggara West. Serge Tor, l'île de Lombok située à Nusa Tenggara West possède beaucoup de sites touristiques à visiter, surtout pour ceux d'entre vous qui aiment la destination touristique maritime. Lundu et Gili-Gili situés autour de l'île de Lombok. Gili dans la langue Sasak signifie petite île. Donc tous les noms de petites îles autour de l'île de Lombok ont toujours une particule Gili en face du nom de l'île. Entre autres, Gili Air, Gili Trawangan, Gili Nangu, Gili Sundak et Gili Tangkong. Cependant, Gili Meno a des caractéristiques uniques qui le rendent spécial. Sejidor, Gili Meno est situé dans le hameau de Gili Meno, le village de Gili Indah, la résidence de Lombok du Nord, Nusa Tenggara West. Gili Meno peut être accessible à l'aide du bateau à travers le port Bangsal. Pour un seul voyage en bateau, il faut payer 14 000 rupiah par personne. En plus d'utiliser le navire, il y a aussi un bateau rapide qui coûte 85 000 rupiah par personne. Par rapport aux autres Gili, l'atmosphère à Gili Meno est plus calme car les véhicules motorisés sont interdits là-bas, comme une voiture ou une moto. Les moyens de transport qui peuvent être trouvés sont en vélo et tidomo. Tidomo est un moyen de transport traditionnel de Lombok, tiré par le cheval. Ainsi, les touristes qui veulent parcourir le hameau Agilimeno marchent généralement ou louent ce moyen de transport. Sejitar, si vous parcourez Agilimeno jusqu'au milieu de l'île, vous verrez l'une des unicités de Agilimeno. Cette unicité est l'existence du lac d'eau salée qui est situé au milieu de l'île. Dans l'alentour du lac, il y a beaucoup d'arbres ombragés. Mais vous ne vous inquiétez pas se perdre, car il y a des indications routières pour atteindre le lac. En arrivant dans le lac, les touristes peuvent tourner autour du quai en bois qui est au-dessous du lac. Les mangroves grandissent pour orner l'alentour du lac. Là-bas, il y a une variété d'oiseaux et l'habitat de poissons. Cependant, ces eaux sont protégées et sont interdites à capturer. Serviteurs, si vous voulez des vacances à Agilimeno, Mai et août sont un bon moment. L'atmosphère si calme rend cette attraction touristique comme place favorite pour les jeunes mariés pour leur lune de miel. Une variété d'hébergement est disponible à Agilimeno. Le prix offert est varié de 150 000 rupiah à 4 millions rupiah par nuit. À Agilimeno, les touristes peuvent tourner également autour de l'île à cheval. Pour louer un cheval, vous êtes facturé 350 000 rupiah. En outre, les touristes peuvent voir les tortues qui nagent dans leur habitat. Le paquet touristique pour tourner autour de l'île à l'aide le bateau à moteur coûtera 150 000 rupiah par personne. Les touristes peuvent également profiter de la plongée en apnée et la plongée en bouteille. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Agilimeno. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. Merci de votre fidélité et à très bientôt.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire et les expressions de la langue indonésienne et leur utilisation dans une conversation. Le sujet d'aujourd'hui est Murid Baru ou en français nouvel étudiant. Comme d'habitude, je vais introduire le vocabulaire et les expressions de la langue indonésienne reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer lentement chaque mot et chaque expression deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Murid baru. Murid baru. En français, nouvelle étudiante. Harap tenang. Harap tenang. En français, se calmer, s'il vous plaît. Kelas. Kelas. En français, classe. Pagi. Pagi. En français, matin. Teman-teman. Teman-teman. En français, ami. Bercerita. Bercerita. En français, raconter. Tentang, tentang, en français, sur. Keluarga, keluarga, en français, famille. Ayah, ayah, en français, père. Pengacara, pengacara, en français, avocat. Ibu, ibu, en français, mère. Bekerja, bekerja, en français, travailler. Rumah sakit, rumah sakit, en français, hôpital. Saudara laki-laki, saudara laki-laki, en français, frère. Saudara perempuan, saudara perempuan, en français, sœur. Tidak punya, tidak punya, en français, n'avoir pas. Anak tunggal, anak tunggal, en français, seul enfant. Bon, maintenant, ce vocabulaire et ces expressions vont être présentées dans une conversation entre guru, professeur A, et Amir B. Je vais prononcer lentement chaque phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. Harap tenang, ada murid baru di kelas kita. Harap tenang, ada murid baru di kelas kita. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a un nouvel étudiant à notre classe. B. Selamat pagi, teman-teman. Saya Amir. Selamat pagi, teman-teman. Saya Amir. Bonjour, mes amis. Je suis Amir. A. Baiklah. Dapatkah kamu ceritakan tentang keluargamu? Baiklah. Dapatkah kamu ceritakan tentang keluargamu? Bon, racontez sur votre famille. B. Ayah saya seorang pengacara dan ibu saya bekerja di sebuah rumah sakit. Ayah saya seorang pengacara dan ibu saya bekerja di sebuah rumah sakit. Mon père est un avocat et ma mère travaille à l'hôpital. A. Bagaimana tentang saudara laki-lakimu atau perempuanmu? Bagaimana tentang saudara laki-lakimu atau perempuanmu? Que diriez-vous de votre frère ou votre sœur? B. Saya tidak punya saudara laki-laki atau perempuan, saya anak tunggal. Saya tidak punya saudara laki-laki atau perempuan, saya anak tunggal. Je n'ai ni frère ni sœur, je suis le seul enfant. Bon, ces amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Merci de votre fidélité et au revoir.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, c'est le philosophe de la voix de l'Indonésie dans 4 ans de monde. Je vous souhaite que vous restiez fidèles à l'écoute de nos émissions. Le magazine de musique et vous pouvez écouter notre émission sur la fréquence 9525 kHz ou bien avec audio streaming sur www.foi.co.id ou bien avec l'application RRI Play sur votre gadget. Chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie, dans cette édition de magazine de musique, on vous présente le chanteur indonésien Adera. Comme le début de notre rencontre, allez écouter d'abord la chanson de jeune Adera intitulée « Lebih Indah ». Bonne écoute.
Chers amis,
Le vrai nom de Adhéra est Adhéra Prabhulantip Trenginas. Il est né à Jakarta au 6 janvier 1986. Il a lancé son premier album en 2011, dont le titre est Lebih Indah. Cette chanson raconte un garçon qui trouve son amour après des années sans amant. Chers amis, la piste Lebih Indah a été publiée par le YouTube et vu par plus de 5000 personnes. Tandis que sa deuxième chanson, Terlambat, ou bien après le lancement, était très populaire aux radios en Indonésie. En 2012, Adhéra a fait le solo concert à la halle de l'Université Muhammadiyah Malang en province de Java de l'Est, qui absorbe le fonds d'un montant de 30 millions de rupiah ou environ plus de 3 000 euros et a fait du succès. Chers amis, avant de continuer notre rencontre, allez écouter la chanson de Adhéra intitulée Terlambat. Bonne écoute.
Andai saja waktu itu tak kutunda, tuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku coba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya. Tak lagi sendiri bila esok.
Chers amis, la chanson terlambat ou le retard raconte sur le retard d'un garçon de dire l'amour. Chers héritiers, vous avez Adira et le fils de musicien très connu indonésien Ebit Gade, qui est célèbre avec des chansons de genre social. Mais pour Adira, il est contraire avec son père. Il aime entendre la musique coréenne. Du coup, il ne veut pas imiter le style de son père, mais il faut être lui-même. Après le succès du premier album en 2015, Adira a lancé son deuxième album, dont les chansons dedans sont plus fraîches et vivantes. Chers amis de Quatre Coins du Monde, c'était le magazine de musique avec le musicien Adira. Et avant de terminer notre rencontre, écoutez deux dernières chansons de Adira intitulées Di Antara Kita et Bahagia Bersamamu. Merci de votre fidélité, attention, bonne écoute et au revoir.
Saat telah ku mencari cinta yang tak kunjung datang, kau selalu ada di sini. Di depan mataku tempat untukku berbagi perasaan yang tersimpan, namun tak kuduga kaulah yang ku tunggu. Canda kita tetap sama, tawa kita tak berubah, namun ada yang berbeda. Ku rasakan itu dari tatapan matamu yang bicara. Ada sesuatu di antara kita. Semua telah terjadi, sudahlah nikmati saja keadaan ini. Namun sungguh tatapanmu yang bicara, ada sesuatu di antara kita. Biarkan saja dia berbunyi.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonésie. Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.